13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1 et ma mission quotidienne, vous la connaissez, vous montrer que oui, la France bouge dans ses territoires, ses entreprises, ses associations et que c'est vous qui êtes les moteurs de ce changement. Aujourd'hui, gros plan sur l'hôtellerie. Le 66e congrès de l'UMI s'ouvre à Saint-Étienne et nous, on a voulu voir comment se portent des fleurons tricolores de notre secteur. On vous emmène aussi à Saint-Émilion aujourd'hui où 8 générations se succèdent à la tête du château Angélus. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis les vacances d'hiver approchent, vous voulez partir au ski, une plateforme montagne, mon séjour en montagne vous propose de tout centraliser. C'est la solution lancée par l'ESF, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, Anissa, comme chaque jour, vous avez la parole. Venez nous dire, tiens, par exemple, si vous allez souvent à l'hôtel et comment vous le choisissez?
Oui, quels sont vos critères de sélection pour vos hôtels? Venez également partager vos expériences. Vous avez peut-être eu des expériences inédites dans des hôtels en France. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis, on lit également tous vos messages, tous vos témoignages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, c'est en ce moment le 66e congrès de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, et c'est l'occasion que nous avons choisi pour aller voir comment nos hôtels français se portent aujourd'hui. Pour accueillir nos invités à mes côtés, Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
C'est vous aujourd'hui qui allez nous apporter toutes les informations qui nous échappent. Et notre coach aujourd'hui, eh bien c'est François Sigel. Bonjour François.
Bonjour.
Fondateur de la revue Oui Demain, je l'ai avec moi. Elle vient de sortir, c'est celle du mois de décembre. Oui Demain avec l'amour en illimité à la une. Enquête sur la révolution digitale des cœurs, c'est important. Aujourd'hui, on va donc pénétrer dans le monde de l'hôtellerie. Rares sont les hôtels haut de gamme qui peuvent encore se targuer d'être totalement indépendants et de ne pas être adossés à un grand groupe. Souvent, derrière le nom de tel ou tel palace, les investisseurs viennent du Qatar, de Chine ou encore d'Arabie Saoudite. Pas au Raphaël ou au Regina. C'est toujours la même famille qui tient les rênes du groupe Bavray. Bonjour Véronique Valk.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est votre arrière-grand-père qui a cofondé le groupe. Nous sommes en 1900. À l'époque, il cofonde avec Léonard Taubert. Racontez-moi, comment est-ce qu'ils font à l'époque pour lever des fonds et ouvrir un hôtel? Vous savez ça? On vous a raconté peut-être?
Alors, il y a eu effectivement une levée de fonds. Avec la société a été créée en 1898.
Ah oui, même un petit peu plus tôt que 1900.
Voilà, parce que justement, 2 ans de levée de fonds et travaux, puisqu'ils rachètent l'immeuble où actuellement il y a le Regina.
Ah oui, alors c'est le Regina, le tout premier.
Le tout premier, oui.
Ensuite,
qui ouvre en 1900 pour l'exposition universelle.
Ouais. Majestic 1907.
Voilà, tout à fait. Et ensuite, Regina, 1925.
Le Raphaël, en 1925. Votre spécificité, je le disais, c'est de résister finalement. Comment on fait quand on voit autour de soi partir les plus grands palaces parisiens aux mains de fonds étrangers? Comment on fait pour continuer à être franco-français à 100%, voire à 120%?
Comment on fait? Je pense qu'une fois qu'on aime ces hôtels comme ses propres enfants, il est inenvisageable d'en vendre un. Donc voilà, c'est pas comment on fait, ça vient du cœur,
ça se fait
naturellement.
C'est une évidence. Vous avez voulu garder les hôtels, évidemment, mais aussi le mobilier à l'intérieur. Alors évidemment, hein, vous rénovez, vous remettez au goût du jour, mais il y a toujours cette tradition en filigrane, c'est important.
Le problème aujourd'hui, c'est que sur l'offre internationale même, on a des hôtels qui sont effectivement assez passe-partout. Et on peut se réveiller un peu dans n'importe quelle ville, on a le même décor. Et on met notre point d'honneur à se réveiller à Paris. Voilà, donc pour ça, on garde le mobilier et on peut très bien jouer avec, le décaper, refaire quelque chose avec, changer les tissus. Il y a 10 000 choses à faire en restant parisien et en respectant le patrimoine.
Ouais, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Aurélien, les chiffres de l'hôtellerie, quel est l'hôtel type en France aujourd'hui?
L'hôtel classique, c'est un hôtel indépendant de moins de 50 chambres. Ça représente les trois quarts des 18 000 hôtels qui existent en France. Et c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il en a le plus. Un petit peu plus de 4 000, juste devant l'Île-de-France. Alors ce sont malgré tout les chaînes hôtelières qui représentent plus de 51% de parts de marché. Évidemment, il y a beaucoup plus de chambres dans ces hôtels-là, 82 en moyenne. Et puis c'est un secteur qui va bien, selon l'INSEE. Le nombre de nuitées était de 210 millions en 2017, soit 10 millions de réservations en plus sur un an, avec un taux d'occupation qui est passé de 58 à 61%. Et puis un petit mot des tarifs, oui. Hein, pour donner un exemple. Alors, une chambre double standard à Paris, c'est 123 euros et c'est 83 à Marseille, par exemple.
Et alors, on va revenir au luxe, évidemment. Combien il y a de palaces en France aujourd'hui ? Alors,
25 palaces dans le pays. Le Crillon vient de rejoindre cette liste de prestige. C'était en septembre dernier. Réouverture après 4 ans de travaux. Alors, on y trouve des noms prestigieux comme le Meurice, le Royal Monceau ou le Bristol à Paris, mais aussi l'Hôtel du Palais à Biarritz ou les sources de Caudalie dans le Bordelais. Ce label Palace a été créé en 2011, label donné par Atout France, une agence rattachée au ministère des Affaires étrangères, auprès de laquelle les hôteliers doivent présenter un dossier. Atout France fait le tri par rapport à une série de critères précis, l'existence d'un spa, d'un service de conciergerie ou encore la présence d'une équipe polyglotte. Et puis, il y a aussi tout de même si ce n'est pas le grand luxe du palace, plus de 320 hôtels 5 étoiles dans le pays.
Que dit notre coach François Sigel quand on voit comme ça une famille porter ses hôtels, les conserver dans son giron? C'est important.
C'est sympathique. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, parce que je me souviens quand même d'une période où ces grands hôtels qui avaient quand même des espaces énormes quoi, étaient vides. Alors peut-être est-ce que ça a été un bénéfice de la mondialisation de faire venir d'une clientèle internationale au moment où effectivement dans les années on va dire 60-70, j'ai plutôt l'impression que c'était palace à vendre quoi. Et bah, moi je me souviens des hôtels sur la côte normande, etc., c'était vide, voilà. Et voilà, peut-être que la mondialisation a fait que globalement vous avez pu effectivement, avec les migrations maintenant, les mutations de population, vous avez pu effectivement remplir vos hôtels. Au moins comme elle est décriée, c'est peut-être évidemment un effet heureux de la mondialisation.
Que répond Véronique Wald?
Dans les années 60-70, je dois avouer que je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas une grande connaissance. Par contre, on a toujours eu des hôtels qui étaient extrêmement connus à l'étranger. Le Regina est très, très connu auprès des Américains. Le Raphaël est quelque part un peu mythique parce qu'on a toujours eu des stars, des hommes
des
politiques.
Des tournages de films aussi.
Alors, dans les deux, on a des tournages de films. Donc, on a une clientèle de fond, d'habitués et de gens qui nous aiment, qui aiment venir chez nous.
La presse People a surpris évidemment pas mal de stars, effectivement, dans les après-midi. Peut-être qu'aucun du Raphaël.
Même pas. Il est tellement discret.
Bien camouflé.
Il est tellement discret, cet hôtel, que finalement, les gens s'y sentent comme un cocon, comme un refuge. On ne communique jamais sur les gens qui viennent chez nous.
Vous avez grandi dans un de ces hôtels, hein, on peut le dire. Vous avez connu tous les recoins, finalement, du Majestic, notamment. Je crois que vous faisiez même parfois les petits déjeuners avec...
Avec la femme de chambre du soir, oui. Je préparais les plateaux de petits déjeuners pour le lendemain.
Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a cette importance si particulière pour vous.
Oui, certainement, parce que ça fait partie...
C'est votre histoire de la famille.
J'ai été élevée avec, j'ai toujours vu maman travailler dedans.
Votre mère qui est toujours là d'ailleurs, votre père aussi.
Bien sûr. Alors, papa est toujours là, Dieu merci.
Administrateur ?
Il est administrateur, il n'a jamais eu de travail exécutif dans les établissements. Mais maman était présidente directeur général jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, où elle est juste maintenant présidente. Mais elle est quand même tous les jours dans ses propriétés... à tourner, à vérifier que tout va bien. Non, elle est très, très impliquée.
On va continuer à visiter les hôtels français avec nous et avec vous sur Europe 1.
Il est 13h11.
Europe 1.
Un restaurant avec des chambres au-dessus, voilà comment Serge Trigano décrit le Mama Shelter. Le modèle fait recette, c'est lui qu'on découvre ensemble sur Europe 1. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui nous découvrons les success stories françaises dans le milieu de l'hôtellerie. Vous pouvez réagir à cette émission, hein, n'hésitez pas, comme chaque jour, on vous écoute, on vous lit. Alors on vous écoute au 39-21, venez nous parler de vos choix en matière d'hôtellerie, quels sont vos critères, et puis venez nous raconter vos expériences également sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Oui, dans le monde des hôtels, vous le savez, il y a des concepts novateurs, celui du Mama Shelter en est un. Bonjour Serge Trigano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est vous qui avez cofondé les Mama Shelter, hein, faut le dire au pluriel maintenant, parce que si mes comptes sont à jour, vous en êtes à 9, c'est ça,
exactement.
À travers le monde. Comment vous est venue cette idée? Vous aviez envie de sortir du conformisme des hôtels standards, c'est ça?
On avait envie, un peu comme mon père a changé le monde des vacances avec le Club Méditerranée,
avec le Club Med,
on a eu envie de changer un petit peu le monde de l'hôtellerie et de nous installer dans des quartiers parfois un peu atypiques et d'accorder une place plus importante que ce qu'on fait traditionnellement en hôtellerie à la restauration et au bar, et de faire de nos mamas, le Mama Shelter, c'est l'abri de la maman, c'est un lieu où on vient pour être un peu cocooné, comme vient de le dire madame, et c'est un lieu où on vient pour faire la fête, pour trouver un peu de bonheur. Donc voilà, c'est avec l'idée de faire rentrer l'énergie de la ville. Je crois que ce qui est passionnant quand on voyage, c'est de sentir un peu les vibrations de la ville et que l'hôtel ne soit pas fermé sur la ville. C'est ce qu'on a essayé de faire au Mama Shelter.
Ouais, dites-moi, le premier c'était quand même assez audacieux, hein, du côté de Bagnolet, un ancien parking, il y avait même du trafic de drogue à l'époque quand vous allez voir le site. Vous avez quand même vu tout de suite le potentiel.
Oui, enfin, on a vu le potentiel. On était un peu fous à l'époque.
J'ai pas osé vous le dire.
Ou hein, totalement inconscient, parce qu'à force de s'entendre dire que ça marcherait jamais, on a fini à un moment donné par douter. Mais on trouvait amusant de faire découvrir Paris sur un quartier différent. Bon, bien sûr, on rêve tous d'aller au Raphaël, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre d'hôtel. Et donc, on s'est dit, essayons de décaler un petit peu le monde du luxe en faisant appel à des talents comme Philippe Stark ou Alain Sandorins et en offrant quelque chose de plus abordable. Et donc, il fallait trouver un quartier à la fois plus populaire et moins cher, ce qui était le cas du 20e arrondissement il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, les prix, entre-temps, ont beaucoup monté.
Alors, vous avez évoqué le Club Méditerranée. On a tous suivi, évidemment, les événements qui vous ont poussé vers la sortie. Est-ce que quand, justement, on cherche des investisseurs à ce moment-là, on vous aide quand même ou est-ce que les portes se ferment? Comment ça s'est passé?
Les portes se ferment totalement. En France, à la différence des États-Unis, aux États-Unis, quand on est viré, puisque j'étais viré du club, on estime que vous allez apprendre de votre échec et que vous allez être meilleur à l'avenir. En France, si vous êtes viré, c'est que vous êtes un mauvais, un nul, et donc il n'y a aucune raison de vous prêter de l'argent, surtout qu'en plus, vous sortez un petit peu de votre sphère d'activité classique. Moi, c'était le village de vacances, donc les banquiers me disaient « Retourne, prends un maillot de bain à Paréo et puis va refaire un village de vacances. »
Ils doivent se mordre les doigts, dites-moi, aujourd'hui.
Ils nous rappellent 2-3 fois par jour pour essayer de participer au futur Mama.
Ouais, et c'est vous qui leur dites non ?
C'est nous qui leur dit qu'on va réfléchir.
Aujourd'hui, le Mama Shelter, on peut dire que c'est un ovni dans l'hôtellerie. Ça marche bien, hein ? 59 millions d'euros de chiffre d'affaires, un navire qui emploie 780 personnes, 6 millions, je crois, de bénéfices, un petit peu plus. L'objectif, c'est quoi ? Toujours plus ? 20 Mama Shelter là, en 2021 ?
Là, il y en a une dizaine en construction, puisqu'on va ouvrir à Lille, on va ouvrir à Londres, à Rome, à Santiago du Chili. On part dans quelques jours au Japon. Donc, il y en a une dizaine qui ouvrent dans les deux ans qui viennent. Et puis, on s'est fixé de continuer. On va essayer de poser des mamas. L'idée, c'est de se poser dans les villes qu'on aime. L'idée, c'est de travailler avec les gens avec lesquels on a plaisir à travailler et de se dire que nos clients seront heureux dans ces villes-là. Donc voilà, il n'y a pas une grande stratégie très sophistiquée, c'est l'intuition qui fait marcher le Mama Shelter.
Que dit notre coach François Sigel ?
Il dit qu'il est ravi de voir le nom de Trigano associé à une nouvelle success story. C'est très bien parce que quand même le Club Med, excusez du peu, quoi. Club Med, ça a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, l'Europe était ravagée, on ne parlait pas de vacances. Et puis il y a une bande de fous quoi, qui se sont dit, tiens, on va imaginer de faire partir les gens à travers ce qui était d'abord le bassin méditerranéen dans un premier temps et qui est devenu le monde, avec voilà, une espèce d'endroit où on partage, où on s'amuse, etc.
La folie se transmet de génération en génération chez les Triganos.
Je suis ravi de voir qu'effectivement, et on revient effectivement avec votre histoire, c'est toute la difficulté de garder le patrimoine d'une entreprise familiale aujourd'hui cotée en bourse, comme l'était le Club Med avec des actionnaires. Voilà, c'est aujourd'hui très compliqué. Et je suis ravi qu'effectivement de voir sur une formule très originale, avec effectivement en osant, c'est pas évident comme nom quand même, Mama Shelter. C'est pas évident d'aller se planquer parce qu'il n'y a pas que Bagnolet, il y a Marseille aussi.
Mais ça, c'était le premier.
Vous avez pris aussi le pari d'être dans un quartier quand même qui n'était pas globalement, c'était pas sur le port. Quoi, c'était quand même un peu excentré. Voilà. Bon, j'en ai ravi de voir que ça fonctionne et qu'il y en a plein d'autres qui arrivent.
Alors, il y a Accor Hôtel hein, qui est venu vous rejoindre dans l'aventure à hauteur de 35%. Ça me permet, Aurélien, de me tourner vers vous et de regarder justement que le groupe Accor Hôtel français aussi, il marche bien.
Oui, compliqué de ne pas parler d'Accor Hôtel quand on fait une émission sur l'hôtellerie. Le groupe, ce sont plus de 4100 hôtels dans le monde. C'est le premier groupe hôtelier en France et même en Europe. Près d'un quart du chiffre d'affaires est réalisé en France et en Suisse. Alors, l'origine d'Accor, c'est l'ouverture d'un nouveau hôtel à Lille en 1967. Et puis, c'est bien sûr ensuite la création de la chaîne des hôtels Ibis, une gamme d'hôtels plutôt bon marché, qui a été complétée par exemple en 2016 avec le rachat de 3 marques de luxe du groupe canadien FRIH. Une acquisition qui positionne clairement Accor Hotel parmi les leaders mondiaux de l'hôtellerie de luxe.
Ça vous a aidé, Serge Trigano, l'arrivée d'Accor Hotel pour vous développer à l'international, justement?
Accor a un réseau de développeurs assez extraordinaire. Et donc, ils avaient un portefeuille d'hôtels comme les Ibis, les Novotel et autres. Il leur manquait un truc un peu plus sexy, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché d'eux. Et Accor nous permet d'accélérer le développement. Toute une partie des mamas qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le résultat de la collaboration avec cette belle équipe.
On reste ensemble, on continue à visiter l'hôtel français sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et l'hôtel de demain, tiens, à quoi va-t-il ressembler? Il sera peut-être sorti tout droit de l'imagination de deux sœurs françaises, les architectes Varino et Varino. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 et aujourd'hui, nous découvrons les success stories et les sagas familiales dans le milieu de l'hôtellerie, les sagas familiales françaises, bien sûr, Raphaël Duchemin. Vous pouvez réagir à cette émission, hein, n'hésitez pas, 3921, c'est le standard d'Europe 1 pour nous dire quels sont vos critères de sélection des hôtels en France. Et puis, venez partager peut-être vos expériences, originales ou pas, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec le coach du jour, François Ségel, et à mes côtés, Aurélien Fleureau pour cette émission. Dans 10 ans, est-ce que vous savez, vous, nous dire à quoi va ressembler l'hôtel français? On a peut-être bien la réponse, car Clotilde et Alice Varino ont obtenu le deuxième prix des Radical Innovation Awards. Bonjour Clotilde, merci d'être avec nous.
Bonjour Raphaël.
Votre agence est toute jeune, vous êtes architecte. Je crois que vous avez ouvert au mois de février 2018. Oui. Alors votre hôtel, celui que vous avez en tout cas imaginé sur le papier, il est aquaponique. Je suis sûre que quand je dis ce mot, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Alors je vous laisse leur expliquer.
Voilà, donc c'est un hôtel dans lequel on a intégré un système aquaponique. Le système aquaponique, c'est une combinaison entre l'aquaculture, donc l'élevage de poissons, et l'hydroponie, donc les cultures hors sol. Le système fonctionne par les déjections de poissons qui sont filtrées par une bactérie et deviennent des nutriments pour les plantes qui filtrent à leur tour l'eau. Et dans ce système vertueux, on obtient une production locale de fruits et légumes.
Ça signifie que c'est un hôtel qui est autosuffisant, en quelque
Exactement.
Sorte.
Exactement. Donc on produit localement et on permet d'être autosuffisant dans l'hôtel.
Donc on a un hôtel qui est coupé en deux, si je schématise, avec le côté droit peut-être où il y aura les cultures et puis le côté gauche où il y aura les chambres et inversement.
Exactement, on a divisé donc l'hôtel en deux parties pour avoir une partie culture, une partie chambre. Après, c'est quelque chose qui doit être développé en fonction des besoins et des hôtels et de ce que souhaite produire l'hôtel en fonction du nombre de personnes et de clients.
Donc on va pouvoir planter des légumes, faire en sorte que ces légumes soient cultivés, cuisinés dans les cuisines du restaurant, de l'hôtel. Et vous avez même la possibilité d'en donner une partie à l'extérieur, d'en vendre une partie.
Dans
votre concept aujourd'hui, il y a 30% qui peuvent aller à l'extérieur.
Voilà, on peut faire une vente directe depuis l'hôtel pour vendre ce qui a été produit en surplus. Après, on a voulu vraiment développer l'hôtel autour du système aquaponique pour créer des expériences et créer une expérience immersive pour les clients. C'est pourquoi on a des expériences olfactives, gustatives, sensorielles. On a un spa dans lequel on produit localement des algues. Et ce qui permet d'offrir et de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs et des clients pour les hôtels de demain avec une démarche environnementale.
Alors cet hôtel, pour l'instant, il est sur le papier, il est dans votre imagination. Il sera disponible quand? Quand est-ce que les premiers clients pourront éventuellement y entrer? Est-ce que vous avez déjà des projets qui commencent à être aboutis?
Alors il va pas être construit demain a priori, mais pour le moment, on a été contacté pour constituer une équipe pluridisciplinaire internationale pour développer déjà des systèmes aquaponiques dans des hôtels existants et proposer ça. Et après, on verra pour la suite.
Le coach, François Ségel.
Oui, bah ça existe. Hein. Ça fait partie un peu des panoplies pour nourrir demain les villes, quoi. L'agriculture de proximité, réduire les distances, éviter évidemment les empreintes en carbone excessive. Effectivement, il y a des expériences. D'ailleurs, on en teste une dans le prochain numéro de
Oui Demain,
celui qui paraîtra dans
dans quelques mois, effectivement, où on a fait tester, effectivement, par un grand chef, effectivement, le poisson qui avait été cultivé. Alors, je crois que c'est à Bruxelles. Hein, je crois que c'est à Bruxelles, mais
les
légumes...
Dans un hôtel, il fallait quand même y penser.
Non, c'est pas un hôtel. Je crois que c'est un lieu. Je crois que c'est un espace énorme, globalement, en lisière d'une ville. Je crois que c'est à côté de Bruxelles. Je dis peut-être une bêtise. Mais en fait, en tout cas, on a fait tester, effectivement, la nourriture, le poisson, voilà. Et puis, j'imagine que dans la suite, vous serez autonome énergétiquement, parce que globalement, l'aquaponie, ça suffit pas.
On l'a pas dit, hein, mais vous récupérez également l'eau de pluie.
On recycle l'eau de pluie et donc ça devient un circuit fermé où on économise 90% d'eau, on produit plus. Donc...
Aurélien, il y a d'autres idées, d'autres initiatives qui ressemblent à celle-ci ?
Oui, à plus petite échelle, hein, autour de ce concept hein, d'hôtel durable. J'ai notamment repéré l'initiative d'une association lyonnaise, Unisoap, qui propose en fait de récupérer les savonnettes utilisées, souvent une seule fois, hein, une fois ou deux pour se laver les mains, dans ces chambres d'hôtel. Et après un travail de recyclage, eh bien, ces savons sont offerts aux associations caritatives, hein, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, une initiative environnementale, humanitaire, qui part d'un constat, 949 millions de savons sont jetés chaque année par les hôtels.
On reste ensemble, on continue à visiter l'hôtel français sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on vous attend toujours. Hein. Qu'attendez-vous, vous, de l'hôtel français ? À vous de nous le dire. Venez poser vos questions à nos invités, 3921 et Twitter. À tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, on s'intéresse aux sagas familiales et aux success stories françaises dans le milieu de l'hôtellerie. On attend et on lit vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et on vous écoute au 3921, c'est le standard d'Europe 1. Venez nous dire comment vous choisissez votre hôtel, Raphaël.
À mes côtés, Aurélien Fleureau et le coach du jour, François Sigel, fondateur de la revue Oui Demain. Avec nous dans les studios d'Europe 1, Véronique Valk, qui dirige les hôtels Bavray, Serge Trigano, qui a cofondé les hôtels Mama Shelter, et Clotilde Varino, architecte à l'agence Varino et Varino, avec sa sœur Alice. On était en train de parler de l'hôtel de demain et des sagas. Vous me disiez tout à l'heure hors micro, Serge Trigano, que c'est souvent lié. Hein, l'hôtellerie, elle marche bien souvent quand elle reste en famille, on arrive à écrire des success stories.
Oui, je crois, enfin, encore une fois, les plus belles histoires dans l'hôtellerie sont des histoires familiales. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui bouge un peu sur la vie privée. C'est 7 jours sur 7, c'est jour et nuit. Bon, il faut donc que l'autre, la femme, l'époux, la famille comprennent ça. Et donc, il y a une espèce de passion dans ces métiers, que ce soit dans le métier, dans les villages de vacances, dans les hôtelleries de luxe, dans ce qu'on est en train d'essayer de faire. Les plus belles histoires, les Oberoi, les Pritzker avec Hayat, Marriott, la famille Bavraise, tout ça, c'est des grandes histoires familiales et c'est ça qui fait... qu'on voit un peu partout dans le monde. Et c'est un des points communs à notre métier. Il y a à la fois un véritable ascenseur social. C'est vraiment un des métiers où on peut commencer. Là, on vient d'ouvrir un Mama à Toulouse. L'encadrement, c'est des garçons et des filles qui ont commencé il y a 5-6 ans avec nous à des postes de réceptionnistes et autres et qui sont maintenant les responsables de service, le chef de cuisine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels il y a ces possibilités-là.
C'est pareil pour vous, j'imagine, Véronique Valk.
Oui. On essaye de conserver les gens avec qui on travaille très longtemps et pour ça, il faut repérer ceux qui ont envie, ceux qui ont la possibilité et il faut les faire
évoluer
au sein de l'entreprise parce que pour le client, c'est une sorte de fidélité, c'est une reconnaissance et c'est très très important.
Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous dans les trois hôtels, le Régina, le Raphaël, le Majestic ?
Alors bon, en fonction des saisons, mais à peu près lycée à l'année 260-270.
C'est un problème aujourd'hui parce que je sais que le congrès de l'UMI cette année se penche justement sur la question du recrutement. C'est un problème recruter aujourd'hui chez les jeunes notamment ?
Ah, pas que chez les jeunes, hein. c'est un secteur qui est très tendu, donc ceux qui veulent se reconvertir, nous sommes preneurs. Il n'y a pas assez de personnel dans les cuisines, nous avons des problèmes pour recruter dans beaucoup d'autres départements, et on est toujours à la recherche de bonne volonté.
C'est la même chose chez vous et chez les Mama Shelter, Serge Trigano.
Oui, enfin, c'est un sujet global. Nous, on a la chance, on a une petite boîte, on bouge, on se développe, donc on attire du monde, mais c'est vrai que c'est un métier qui a du mal attirer des talents, c'est un métier où les gens hésitent à venir, à la fois parce qu'encore une fois, c'est des modes de travail du matin au soir, 7 jours sur 7, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il faut avoir envie de servir. En France, la notion de service n'est pas totalement attachée à nos valeurs. Donc il y a un ensemble de choses qui bloquent. Et le congrès de l'UMI, d'ailleurs, est basé là-dessus, pour donner ces lettres de noblesse à ce métier, réattirer des talents et mettre en valeur ce système.
Que dit Twitter, Anissa ?
Alors, il y a Laurent sur Twitter qui vient de poster une question avec le hashtag Europe 1. Il dit « Et l'hôtellerie Corse, alors ?» On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission.
Oui, ça c'est une spéciale dédicace pour moi, je pense. L'hôtellerie Corse, ouais, je ne sais pas, l'hôtellerie Corse. Qu'en pense François Sigel, de l'hôtellerie Corse ?
Ah bah l'hôtellerie Corse, d'abord laquelle?
C'est l'hôtellerie française aussi.
Laquelle? Déjà l'hôtellerie Corse, effectivement, j'ai vu effectivement la capacité des Corses à protéger leur littoral, effectivement, elle doit être plutôt haut de gamme, j'ai à dire, plutôt un petit peu rare, effectivement, et voilà, j'ai pas d'avis particulier sur l'hôtellerie Corse, mais effectivement... Oh.
Aurélien Fleureau, vous nous aidez à trouver l'hôtel qui nous va bien. Comment je fais si je veux être certaine d'aller dans un hôtel qui est fait pour moi ?
D'aller au bon endroit. Alors, il y a une application qui s'appelle TripTwin qui va sélectionner donc l'hôtel idéal pour vous, selon vos attentes, vos goûts. L'objectif, c'est surtout de nous faire gagner du temps au moment du choix de notre hôtel. Peut-être dans une ville qu'on ne connaît pas, on perd parfois un petit peu de temps à trouver le bon hôtel. Alors, ils mettent en place un processus de réservation personnalisé grâce à un algorithme qui va se baser sur nos réponses à quelques questions basiques. Est-ce qu'on voyage seul, en couple, en famille ? Quel est notre budget ? Et puis, quel est le but du voyage ? Repos, travail ou découverte ? Avec l'idée qu'une fois notre profil client créé, eh bien l'application va nous orienter facilement et rapidement vers donc cet hôtel idéal.
François, le coach.
Oui, ça me relance sur aujourd'hui quand même. On ne peut pas parler d'hôtellerie sans parler d'Airbnb, bien évidemment, et de Booking.com ou d'Expedia ou TripAdvisor, parce que ces gens-là quand même ont mis main basse sur l'hôtellerie du monde. C'est-à-dire que vous prenez votre ordinateur, vous cherchez un hôtel, vous tombez tout de suite sur Booking. Moi, je peux vous en faire une demi-heure sur les expériences de Booking. Hein, je les ai faites, quoi, globalement. Voilà, donc c'est un vrai problème parce que globalement, c'est très difficile de passer outre. Alors, quand je discute souvent avec les hôteliers qui ont souvent leur petite recette, hein, en gros, il y en a qui vous disent, je vais me faire tuer par Booking, mais c'est pas grave, appelez-moi en direct et vous aurez 10%, hein, globalement. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est tellement bien fait, les applications sont tellement confortables que je vois pas comment on fait aujourd'hui pour se passer effectivement de ces monstres, globalement, quand on veut réserver un hôtel. Je suis pas sûr que Mama soit sur Booking d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut s'en passer, Serge Trigano ?
Mama s'en passe en partie puisqu'on fait 70% de nos ventes en direct. Mais moi, je ne suis pas pour faire le procès de Booking et d'Expedia. Je crois que c'est des outils fabuleux. Les mecs qui ont fait ça sont des mecs très très forts. Bon, après, si vous avez une marque forte, vous arrivez à négocier et à vivre sans. Si vous vendez que des rooms comme des commodities, bah, c'est vrai que là, il n'y a que le prix qui compte et ils peuvent vous tordre le cou. Mais sinon, c'est unique au monde d'avoir la possibilité de se faire connaître au Japon et partout dans le monde sans avoir une équipe de revendeurs. Donc, c'est plutôt des bons outils.
Véronique Valk.
70% en direct, c'est mon rêve.
Et comment est-ce que vous voyez l'arrivée, par exemple, d'Easy Hotel ? Je crois qu'ils veulent venir ouvrir une quinzaine d'hôtels là, dans l'année qui vient. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous vous dites, c'est super ? On veut encore investir le territoire français ? On veut encore mettre de l'argent, finalement, en France ?
La beauté de notre métier, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a de la place pour des magnifiques hôtels haut de gamme, comme ceux de ma voisine. Il y a de la place pour des gens comme nous, qui sont un petit peu des trublions dans le monde. Il y a de la place pour les chaînes classiques.
Et demain, pour notre hôtel en Acoponie.
Des hôtels complètement différents. Et ce sont nous les mêmes clients. À un moment donné, je vais pour travailler dans une ville, j'ai envie d'un truc où il n'y a pas de bruit classique et je veux me faire un bon nouveau hôtel. J'ai envie de faire plaisir à la femme que j'aime, à mon épouse. Je vais essayer d'aller pour aller au Raphaël. J'ai envie, avec mes enfants, de m'amuser. Je vais aller au Mama Shelter. Voilà, c'est la beauté de notre métier, c'est que tout le monde peut y trouver son bien-être.
Et oui, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, y compris dans le monde de l'hôtellerie. Merci à tous les trois d'être venus participer à cette émission aujourd'hui.
Il est 13h39.
Europe 1. Je vous emmène dans le vignoble bordelais où la même famille est aux commandes du château Angélus depuis, écoutez bien, 1782. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1. La France bouge sur Europe 1 et chaque jour, Raphaël Duchemin, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui, c'est une saga familiale à la robe envoûtante.
Ah oui, vous avez raison Anissa, cette entreprise est une de nos belles histoires françaises. Bonjour Stéphanie Redebois-Rivoal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le château Angélus qui appartient à votre famille depuis 1782. Vous êtes donc, si on a bien compté, la 8e génération.
Absolument.
Votre domaine, c'est aussi évidemment l'histoire de votre famille. C'est indissociable.
Absolument.
Comment est-ce que ça démarre, 1782 ? Qui plante, tiens, la première vigne ?
Alors c'est le premier ancêtre de ma famille à s'être installé à Angélus, château Angélus à Saint-Émilion en 1782, Jean de Boire de la Forêt, qui est arrivé à la fin de sa vie et qui s'y est installé et qui a acheté quelques arpents de vigne et qui a transmis ensuite à sa fille. Et la transmission s'est opérée ensuite jusqu'à donc, la 8e génération que je représente aujourd'hui.
Vous avez, vous, grandi sur place au domaine, hein. Ça n'est pas négociable, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde.
Alors ça s'est passé comme ça pour moi tout à fait, côté de mes frères et sœurs. J'ai eu la chance d'abord je suis née à Bordeaux et j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance à la propriété Angélus et je courais au milieu des vignes côté de mon père et de mon grand-père. Et c'est d'ailleurs très tôt que quelque chose m'a été transmis, une passion, un ancrage, quelque chose d'assez fort que j'ai ressenti jeune.
Vous aviez 7 ans je crois.
J'avais 7 ans, oui tout à fait. Et quand je leur ai dit à l'un et à l'autre que je souhaitais plus tard être à leur côté pour diriger le domaine.
Alors vous dites ça quand vous avez 7 ans, puis finalement vous changez de cap avant de revenir à vos premières amours.
Alors sans changer de cap, j'ai souhaité avoir une expérience dans un autre domaine d'activité. Je souhaitais prouver que j'étais capable de réussir et puis surtout aussi de m'ouvrir à l'international, de voyager, d'apprendre d'autres langues. Et puis revenir ensuite pour mieux revenir à mes racines et reprendre le flambeau familial.
Votre père, Hubert, est resté un long moment à la tête du domaine. C'est un personnage connu, respecté hein, dans ce milieu. Comment est-ce qu'il vous a transmis les commandes ? Je crois que vous avez fait en 2015 une cuvée commune à quatre mains. C'était important finalement ? C'est aussi une sorte de passage ?
Tout à fait. Alors mon père d'ailleurs n'est pas parti, il a pris du recul, oui. Puisqu'il m'a transmis effectivement l'opérationnel. Lorsque je suis revenue donc, de Londres en 2012, j'ai pris les commandes. Mon père et mon oncle étaient encore présents à mes côtés. Il y a eu cette transmission, ce passage de témoin qui s'est opéré tout naturellement. Et nous avons des parcours qui sont très différents, puisque j'ai donc étudié la finance et puis eu cette première activité, cette première expérience dans ce domaine d'activité. Mais les choses sont faites très naturellement. Quand je suis rentrée, j'ai eu les coups des franges. J'ai bénéficié et je bénéficie toujours de la confiance absolue de mon oncle et de mon père. Et ça a été très, très, très précieux pour moi parce que j'ai pu accomplir donc nombreux projets, soit dans le domaine viticole, mais aussi d'autres activités que j'ai souhaité apporter pour développer l'entreprise à mon tour.
On va en parler dans un instant. Que dit notre coach François Sigel ?
D'abord, il regrette que vous ne soyez pas venu avec un kit de dégustation. Déjà, ça, c'est la première chose. Je vous en veux beaucoup.
Il faut venir nous rendre visite à la propriété pour ça.
C'est passionnant parce qu'effectivement, on voit qu'à travers effectivement, cette histoire de cette ô combien très belle marque, effectivement, vous avez traversé la Révolution française, les guerres. Je veux dire, bon, ça n'a pas dû être facile, effectivement, tous les jours. Alors, et puis, l'avenir, il n'est peut-être pas si simple que ça parce que je vois qu'il y a deux révolutions qu'il va falloir maintenant aborder. Peut-être c'est celle du bio, hein, globalement. Il y a quand même une tendance un peu lourde. Et puis deuxièmement, la montée climatique. Hein. On est toujours effectivement dans le monde d'aujourd'hui, on est dans le climat. Et comment on va faire aujourd'hui quand on sait que le vin augmente régulièrement d'un ou deux degrés, effectivement. Comment des grandes maisons comme celle-là, effectivement, vont pouvoir résister à ces révolutions qui arrivent.
Alors le passage au bio, je crois qu'il y a déjà un grand pas de franchi.
Alors en tout cas, un premier pas de franchi, puisque c'est quelque chose qui, dans notre famille, a été discuté de longue date. Et cette année, en début d'année, nous avons pris la 8e génération après la décision de se lancer en conversion bio. Donc 2018 est le premier millésime conversion biologique, agriculture biologique pour nous. C'était quelque chose d'assez assez compliqué puisque les conditions climatiques ont été très compliquées. Sur la première partie de l'année, on a eu l'équivalent d'une année de pluie sur 6 mois. Donc ça a été assez difficile, mais nos équipes techniques, toute l'équipe ont relevé ce défi. Ça nous paraît être absolument nécessaire aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de nos convictions. C'est une philosophie. Pour nous, le bio, ça n'est pas, c'est plus qu'un label, mais on estime qu'avec une agriculture propre et raisonnée depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, on va jusqu'au bout et que sur une douzaine de traitements que l'on fait en conventionnel, il y en avait déjà seulement deux ou trois qui étaient des traitements avec des produits de synthèse. Donc aujourd'hui, on se lance vraiment dans le bio. Première évolution et non pas révolution. Et ensuite, ce qui est du point de vue du changement climatique, on a un terroir qui est composé d'argile et l'argile est un réservoir d'eau fantastique, donc nous permet, c'est un des moyens pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, et maintenir l'excellence évidemment, hein, parce que tout le monde a entendu parler du Château Angélus. C'est 100 000 bouteilles, c'est ça par an ?
C'est ça, pour le grand vin Château Angélus. Tout à fait, absolument.
La suite, donc, c'est le bio et c'est la transformation plus que la révolution.
Oui, c'est une évolution. Je crois que c'est important. Je considère que rien n'est jamais acquis, qu'il faut faire preuve d'humilité, puisque je vous parlais à l'instant des conditions climatiques dont nous sommes tributaires. C'est une remise en question au quotidien. Donc l'excellence, bien entendu, l'excellence à tous les niveaux. Aujourd'hui, lorsqu'on m'a remis les clés de la propriété, Château Angélus est au sommet de son appellation. Donc mon défi principal, c'est bien entendu de maintenir ce niveau d'excellence, mais aussi de développer donc par le bio, bien entendu, mais aussi en améliorant, en se remettant en question, en innovant, en essayant au quotidien.
C'est le Château Angélus, c'est une des plus belles histoires françaises de notre vignoble et c'est l'entreprise aujourd'hui qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Il est 13h48.
Europe 1.
Réservez les skis, l'hôtel, les remontées mécaniques et si vous pouviez, avant d'aller à la neige, n'avoir qu'un interlocuteur, c'est ce que propose l'ESF avec Mon Séjour à la Montagne. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et chaque jour, Raphaël, vous nous présentez la solution du jour. Et celle-ci concerne nos futures vacances.
Oui, aujourd'hui, une solution pour réserver Anissa de A à Z, un séjour en montagne. C'est une idée de l'ESF Aurélien, l'école du ski français.
Et l'objectif, c'est donc de tout réserver en un clic sur la même plateforme. Elle s'appelle monsejourenmontagne.com. Donc, il y a un tiret entre chaque mot, hein, monsejourenmontagne.com. Alors, cela va de l'hébergement, bien sûr, aux remontées mécaniques, en passant par le matériel et les cours de ski. La plateforme présente les tarifs en station de chaque opérateur, hein, qui est implanté localement. Le site fonctionne été comme hiver. Et il y a pour l'instant une cinquantaine de stations, plus de 20 000 lits proposés et 150 écoles de ski. Tout réunir sur un même site permet de rendre la montagne plus accessible. C'est en tout cas l'objectif de l'ESF et on va en parler avec Jérémy Noiret. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint du syndicat national des moniteurs du ski français. Donc cette plateforme, ça doit devenir l'outil indispensable pour réserver un séjour ?
C'est ça. En fait, on a voulu enrichir déjà notre propre solution de vente en ligne, puisqu'on faisait de la vente en ligne depuis les années 2000, où on avait pas mal de monde qui passait. On avait plus de 300 000 clients par an. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer effectivement de compléter son séjour dans un seul et même panier, avec un paiement qui est unique, mais on est bien à une place de marché, c'est-à-dire que les flux financiers sont ventilés directement auprès de chacun des acteurs. On ne collecte pas l'argent, on n'est pas agent de voyage, on n'est pas une centrale de réservation, on est bien un facilitateur.
Donc c'est ça, une place de marché et pas une agence de voyage. Vraiment, on est l'intermédiaire. Enfin, vous êtes l'intermédiaire.
Exactement, c'est-à-dire que l'internaute va valider les conditions générales de vente de tous les acteurs. Et c'est bien les prix de chacun, les conditions de vente de chacun et donc la politique commerciale de chacun de ces acteurs.
Ça signifie qu'il a fallu voir avec chaque station, oui, avec chaque hôtel, chaque finalement magasin de location qu'il vous donne l'accord.
En fait, voilà, on a contractualisé avec chacun de ces hébergeurs, ce qui représente aujourd'hui à peu près 25 000 lits, avec les exploitants de remontées mécaniques, donc là c'est une soixantaine, et puis les magasins de sport qu'on est en train d'intégrer cette saison.
Alors plus accessible, ça veut dire aussi faire des économies, pas que de temps mais aussi d'argent. Est-ce qu'on arrive à justement en groupant son achat, son séjour à faire quelques économies ?
Alors c'est pas le souhait premier de la plateforme. Le souhait premier, c'est de fédérer tous ces acteurs, de faire en sorte qu'ils conservent ce lien direct entre le client et le consommateur et qu'on n'ait pas un intermédiaire. J'entendais tout à l'heure, on parlait de Booking ou d'autres. Et j'ai rien contre ces grands acteurs, mais la difficulté qu'on a, nous, en station, c'est quand on voit imposer des 15-20% de commission, eh ben on a bien souvent tendance à le répercuter au client. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte de maîtriser ses coûts.
Que dit notre coach, François Sigel?
Ça a l'air très bien. A priori, il faudrait essayer. Donc,
simple,
si j'ai bien compris,
cas.
Depuis Paris, Bordeaux, Limoges, on peut effectivement concevoir tout son séjour à la montagne. C'est toute la France, c'est-à-dire c'est les Alpes, globalement, mais aussi les Vosges.
Les Pyrénées.
Là où il y a une école de ski, quoi, quelque part. Hein. Alors, c'est ça, c'est le...
Exactement. Là où il y a une école de ski qui fait de la vente en ligne. Parce que, par exemple, la Corse, on a deux écoles, mais il n'y a pas de vente en ligne.
D'accord.
En revanche, sur tous les autres massifs, effectivement, c'est bien le cas.
Oui, vous insistez beaucoup aujourd'hui avec la Corse. Hein, je ne sais pas ce qui se passe.
Et vous couvrez quel pourcentage des hôtels, effectivement, de stations ou hors station ou
On reste sur la station, hein, on est bien sur le périmètre de la station. Aujourd'hui, on doit en être à peu près à 25-30%. On est en train de continuer chaque année. Hier, on était avec Gîtes de France qui est en train de venir rejoindre la plateforme. On a le réseau Fnaim, les agences immobilières qui vont aussi adhérer. Les grands hébergeurs. Donc on est en train constamment, c'est un travail effectivement, vous le disiez, il faut aller contractualiser avec chacun, mais c'est le but, et puis derrière c'est le but d'étendre ce service. On est en train de travailler avec la SNCF, avec les parkings, avec les bus, éventuellement même la RATP, comme ça vous pouvez partir de chez vous ici à Paris, et puis aller jusque en station, et tous les précieux sésames, que ce soit la carte de cours, le forfait, sera dans votre chambre.
Et bientôt, on aura sa patinette à chenilles qui vous attendra effectivement à la sortie du train pour monter jusqu'à son hôtel.
On est moderne, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez ?
La mobilité dans tout son spectre.
Ça s'appelle donc Mon séjour en montagne.com avec des tirets effectivement entre chaque mot, comme le précisait Aurélien. Merci d'être venu nous en parler. On se retrouve demain à Nice. On dit au revoir évidemment à François qui reviendra très bientôt. Notre coach François Sigel, fondateur de la revue Oui Demain, dont je rappelle que le numéro est toujours en vente, hein. Numéro de décembre évidemment. Et demain, je ne vous dis rien, surprise. Demain.
Suspense, eh bien on sera là au rendez-vous à partir de 13h, Raphaël Duchemin. Dans un instant, à 14h pile sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses récits. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a fait un AVC, mais quelqu'un d'un peu particulier, puisqu'il était PDG de Peugeot Citroën quand ça lui est arrivé. Il s'agit de Christian Streiff.
Ondelat raconte la vie et le parcours de Christian Streiff, un homme pressé. C'est dans un instant sur Europe 1.